Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle mouture de la loi des séries. Saison 11, ça commence avec cette émission. On va s'ouvrir à d'autres séries, à d'autres territoires et à d'autres types d'invités. Et on va commencer aujourd'hui par s'intéresser à un monument de la télévision japonaise. On va s'intéresser à la série Kamen Rider qui est au centre de l'actualité. Justement, plongeons-nous dans le vif du sujet tout de suite.
Go, go, let's go! 輝くマシン。ライダー、ジャンプ。ライダー、キック。
Et voilà, et la grande surprise de ce début du mois de juillet, alors que le Japan Expo bat son plein, c'est la sortie de ce coffret événement Kamen Rider, les 8 premiers films de la saga Kamen Rider. Et pour en parler, je reçois celui qui est un peu devenu la bible, l'encyclopédie dès lors qu'on parle de kaiju et de séries japonaises. Il présente justement les films sur ce coffret qui est magnifique. On va en reparler dans un instant. Merci Fabien Moreau d'être avec nous.
Henshin. Bonjour Alexandre.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, je t'ai épargné de me demander de me faire le geste de transformation, mais ça pourrait très très mal passer.
Oui.
On va le voir dans un instant. Ceci dit, c'est un événement. Kamen Rider qui sort en Blu-ray.
Oui, oui, oui. Alors là, il faut vraiment saluer Roboto Film, un autre Alexandre que je salue, qui a fait le pari fou de sortir les films tirés de la série Kamen Rider, donc les films de l'ère Showa, donc c'est-à-dire les films situés autour de 1971-1972 jusqu'en 1988. Et c'est vrai que là, on a les 8 films cinéma, en tout cas les 8 films conçus pour le cinéma produits par la Toei. Qui ont été produits sur cette période de 7 ans, de 17 ans, pardon, 16-17 ans.
17 ans, ouais.
Ouais, quand même. Et c'est une première en France, c'est vraiment un événement. Ouais.
C'est même une première pour avoir du Kamen Rider en France.
C'est une première.
En contenu, en physique, en
support physique. En physique, parce que c'est vrai que, bon, historiquement, l'histoire de Kamen Rider en France, elle est assez limitée. On a eu des films taïwanais qui étaient, on va dire, retravaillés d'après les films japonais qui étaient sortis dans les années 70-80. Un Super Rider, hein, on s'en souvient ou pas. Il y avait eu le remaniement. Façon Haïm Saban de la série Kamen Rider Black Eryx, donc qui s'appelait Mask Rider. Hein,
mais oui, dans le Club Dorothée.
Hein, exactement, hein, qui était l'une des séries qui suivait un peu Power Rangers, hein, qui était fait dans la mouvance de VR Troopers, qui elle retouchait Spillvan et Metal Dare. Mais là, bon, il y a aussi les séries qu'on peut voir sur Amazon, comme Kamen Rider Black Sun, comme Kamen Rider Amazons, ou le film Shin Kamen Rider d'Hideaki Anno, dont vous venez de montrer le teaser, là, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que du Kamen Rider Showa classique en support physique en France, c'est la première fois. Ouais.
Et on les remercie, le coffret est magnifique. Alors je l'ai dit, il y a évidemment les 8 films, il y a un poster, il y a un fascicule qui a été fait avec plein d'infos sur la saga Kamen Rider.
Signé Nicolas Janté, ouais.
Qui est vachement bien. Ouais, et puis alors, la bonne idée, c'est aussi ces fiches qui ont été faites et qui renvoient effectivement à chacun des incarnations de Kamen Rider. Une petite fiche technique, hein, comme une fiche de renseignements généraux.
Chaque profil de chaque héros et on va dire résumé dans ces petites fiches. Ça permet aussi d'établir une sorte de chronologie des personnages, leurs pouvoirs, leurs spécificités. Donc c'est vraiment un beau produit. Hein.
Démêler un sac de nœuds, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant 20 minutes dans cette émission Kamen Rider. Je rappelle aussi que si vous avez envie de vous intéresser au tokusatsu en général et à tous ces héros, il y a ce formidable livre qui est sorti chez Inis Edition, qui est une très très belle... un très très bel ouvrage. On essaiera de recevoir évidemment les auteurs parce que il y a toujours plein de choses à dire.
Oui, j'en profite pour saluer Marvin Ringard qui lui co-gère un collectif dédié au tokusatsu qui s'appelle Tokulture, et donc il s'est lancé dans l'écriture de ce livre, et Romain Tazek qui lui est un illustrateur notamment de BD, de livres illustrés, et ils ont fait tous les deux un très très beau travail.
Ouais,
et c'est vraiment un très très beau travail, surtout arriver à condenser toute l'histoire, tous les courants et les sous-genres du tokusatsu en 250 pages, fallait le faire, et bravo à eux. Mais j'espère que vous les recevrez un jour, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le bouquin.
On va tout faire pour les recevoir à la rentrée. Ouais. Justement, on va revenir sur la grande histoire de Kamen Rider à l'occasion de la sortie de ce coffret Blu-ray, avec, je l'ai dit, une transformation atypique mais iconique du personnage. On regarde ça et on en parle juste après avec notre invité Fabien Moreau. Regardez.
Rigor ici. Tour.
Ah voilà, c'est efficace, voilà. C'est sobre. Enshin, c'est la transformation, hein, qu'on retrouve dans le genre qui va se déployer après avec d'autres héros. On va y revenir tout à l'heure. 1970, c'est la naissance de Kamen Rider. Au départ, c'est pour boucher un trou, c'est ça ? Un trou dans la programmation ?
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, il y a des chaînes de télé japonaises qui commandent un nouveau programme. Donc, et pourquoi pas un programme de super-héros, tant qu'à faire. Donc, du coup, le département télé de la Toei, donc, dirigé par M. Watanabe, donc, dépêche un producteur, donc, Toru Hirayama, pour mettre sur pied une nouvelle série de tokusatsu, et de préférence une série de tokusatsu avec un motard. C'était un peu en hommage à Gekko Kamen, qui était un personnage des années 50, une sorte de réponse japonaise au Lone Ranger, sauf que là, c'était un motard. Donc, ils vont demander à Shotaro Ishinomori, donc célèbre mangaka, grand auteur à qui on doit notamment Cyborg 009, qui est considéré au Japon comme le roi du manga. Oui. Voilà, le roi du manga qui est juste en dessous de Osamu Tezuka, qui lui est le dieu du manga. Donc, pour créer un nouveau personnage. Donc,
C'est pour surfer sur la vague de succès qu'on connaît peut-être chez nous, comme Ultraman, Spectreman, ou c'est des...
Oui, en fait, le but, c'est aussi...
Chacun veut son héros ?
Oui, Ultraman, c'était déjà une série qui était produite par Tsuburaya Productions, donc c'était produit par la concurrence, et c'est vrai qu'il y a un manque de super-héros, là, au début des années 70, voilà, il faut créer de nouveaux personnages qui marquent les esprits. Spectreman arrivera la même année, hein, d'ailleurs, en 71, au Japon, il y aura aussi Return of Ultraman, produit par Tsuburaya, effectivement. Mais voilà, l'idée, c'est de créer aussi un nouveau personnage, un personnage qui s'inscrit aussi dans la mouvance des personnages de Shotaro Ishinomori, donc généralement des héros sombres, des héros existentiels, avec une, déjà des réflexions sur le transhumanisme, sur les humains augmentés, puis sur les transformations du Japon des années 60-70, donc l'explosion économique, pourquoi pas éventuellement la corruption politique, mais aussi toutes les dérives industrielles, écologiques, la pollution était un gros sujet à cette époque-là, puis aussi la montée des extrêmes, hein. Et l'idée, c'est de montrer ce personnage de Kamen Rider, donc qui est un humain augmenté, donc un Kaizoningen, qui est créé à la base pour faire le mal. Voilà, c'est une organisation.
Il est enlevé par Shocker.
Par Shocker, donc qui est une organisation fasciste créée partiellement à base d'anciens nazis qui veulent prendre le contrôle du Japon et puis du monde. Et donc ils vont kidnapper Takeshi Hongo, comme ça, qui est un jeune athlète, mais aussi doublé d'un scientifique de génie, pour mener leur légion, sauf que lui, il va c'est le premier qui va refuser, donc, justement, d'embrasser la voie du mal, et il va devenir Kamen Rider. Alors, effectivement, pour se transformer, il a sa Enshin Belt, donc qui fonctionne, sa ceinture, donc qui fonctionne à l'énergie du vent, donc l'énergie éolienne, et donc il va combattre les hordes, les légions de Kaijin, hein, donc des mutants envoyés par Shocker pour conquérir le monde. Et
avec ce faciès de sauterelle ?
Oui, tout à fait, il a un faciès de sauterelle, encore une fois, tout ça vient des diverses transformations du personnage. Il y a eu beaucoup de design avant d'arriver à cette version-là, mais aussi parce qu'il y avait une mode au Japon dans les années 70, les enfants collectionnaient, adoptaient les insectes, notamment les kabuto, là, les... une espèce de scarabée.
Oui.
Ah ouais, tout à fait. Donc voilà, on a cette espèce de personnage, de héros sauterelle, Kamen Rider, qui chevauche sa moto cyclone.
Qui lui permet de recharger la ceinture, c'est ça ?
Exactement, ouais. Ouais, c'est ça.
C'est assez... Quand on se confronte pour la première fois à Kamen Rider, il faut dire qu'en France, nous, on a grandi et on a connu, mais la génération quasiment d'après.
Ah oui, c'est quasiment après.
Ce qu'on appelait les metal héros.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que Kamen Rider est encore une institution au Japon ? Parce que voilà, on a c'est un phénomène depuis les années 70, ça continue encore aujourd'hui. Il y a ce coffret qui sort maintenant, mais c'est pas un hasard. Pourquoi c'est devenu une institution au Japon ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?
Déjà, je pense que c'est dû au fait que le personnage a été développé, lancé par un manga et par une série. Donc, on est dans une espèce de multiplateforme un peu cross-média.
Comme pour les dessins animés.
Exactement. Et puis même, c'est déjà coutumier au Japon. Hein. Le premier Godzilla, je le rappelle, a été lancé avec une novélisation et un drame radiophonique, en fait. Donc, du coup, il y avait cette idée déjà d'exploiter tous les médias possibles et imaginables pour lancer un nouveau personnage. Mais ça a vraiment... frapper l'imaginaire des enfants, parce qu'effectivement c'est un personnage qu'on ne peut pas confondre avec Ultraman, c'est un personnage casqué, avec son écharpe, etc. Et c'est quand même un personnage qui, malgré son côté sombre existentiel, défend certaines valeurs, des valeurs de justice, des valeurs d'intégrité, et puis surtout, le manga était très sombre, alors que la série, elle était, entre l'action et l'horreur, mais restait quand même assez grand public, en fait, même si ça n'hésitait pas à être assez agressif par moment. Mais l'idée de Kamen Rider, c'est que c'est un personnage qui a su se renouveler très facilement. Je veux dire, la première série, elle a duré plus de 100 épisodes.
Oui, c'est ça, oui.
Presque une centaine d'épisodes. Ça a été diffusé sur 2 ans, donc un carton d'audience. Ça a duré aussi longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de production. Le premier acteur s'est blessé, donc du coup, il a fallu le remplacer par un deuxième Kamen Rider. Puis ensuite, il revient plus tard dans la série, donc Hiroshi Fujioka. Et les deux Kamen Rider font équipe. Puis ensuite, il y a d'autres séries qui sont enclenchées, donc Kamen Rider V3 avec l'acteur donc Hiroshi Miyoshi. Puis ensuite, ils se sont dit tout simplement on va exploiter tout un filon. Ça s'est arrêté à un moment donné au début des années 80 pour laisser justement la place à un tout nouveau type de personnage, donc les Metal Hero, donc avec Gavan, Xor. Puis ensuite, quand les Metal Hero ont commencé
à péricliter,
on a refait venir le personnage donc avec une toute nouvelle version très sombre qui est Kamen Rider Black. Et puis ensuite, il y a eu d'autres variations pour le cinéma, comme les deux excellents films Kamen Rider Zetto, Kamen Rider J au début des années 90, et puis depuis 2000 à peu près, donc 2 ans après la mort de Shotaro Ishinomori, la Toei produit quasiment sans s'arrêter de nouvelles séries Kamen Rider.
Depuis 25 ans, sans arrêt. Parce que c'est vrai que dès les années 70, ils partent du principe que, après les soucis, j'imagine, de la première version, que ça peut devenir rentable d'avoir une série différente tous les ans, donc avec un nombre d'épisodes qui est restreint, contenu en une cinquantaine d'épisodes, pour se dire voilà, tous les ans on renouvelle, ce qui va être fait après avec aussi les Sentai.
Oui, tout à fait. Et puis il faut pas oublier que ces séries se font toujours en partenariat avec Bandai, qui élabore les designs des personnages, qui s'assure que ces personnages là sont très soit figurine friendly, on va dire, que voilà, il faut que aussi vendre des figurines de ces héros. On produit aussi les Henshin Belt, qui se vendent, et puis aussi d'autres devices. Il y a même aussi des cartes Kamen Rider, enfin bon, il y a des choses qui sont très bien expliquées dans le bouquin. Moi, j'avoue que je suis un peu moins bon sur l'aspect merchandising, mais c'est vrai que même il y a un des personnages qui a fait l'objet d'un manga dérivé, Futopi. Oui, Kamen Rider, c'est une institution qui continue. Et puis, ça va être plus belle dans la mesure où l'an prochain, donc 2026, on fêtera les 55 ans de la licence. Et je sais que la Toei va sûrement...
Il y
a des choses qui se préparent. Et puis, on sait que la Toei a fait un post là, sur les réseaux sociaux, en disant que maintenant, ils veulent lancer une sorte de globalisation de la licence. Ils veulent continuer à exploiter la licence, mais de prévoir un plan pour son exploitation à l'international. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter consommer du Kamen Rider.
Notamment en s'appuyant sur les plateformes. On sait que les plateformes aujourd'hui, c'est un moyen.
Oui,
on l'a
sûr.
Vu avec Power Rangers, on l'a vu avec plein de choses.
Bien sûr.
C'est un moyen pour eux de toucher un public d'un seul coup large et de faire découvrir, pourquoi pas, des programmes que les gens connaissent moins bien.
Bah, typiquement, la série Kamen Rider Black Sun, qui est sortie il y a deux ans et demi sur Prime, ça a été un très très beau lancement. Beaucoup de gens ont été réceptifs à la série parce que c'était quand même une série assez sombre, une série qui se termine en fait sur une dizaine d'épisodes, et puis surtout une série vraiment dark, très politique, qui faisait une sorte d'état des lieux du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale, et on voit que c'est pas toujours très très reluisant. Mais voilà, on revient sur le côté un peu plus body horror organique et même dépressif de Kamen Rider, ce qui était quand même assez... c'était chouette, quoi. Ça donnait une très très belle série. Ouais.
Ce qui est chouette quand on voit Kamen Rider, et y compris dans ces films-là, c'est qu'on est habitué, nous, à ces héros, on va en reparler dans un instant, des Metal Hero qui sont des cascadeurs, des gens très athlétiques. Le corps même des acteurs qui jouent Kamen Rider, c'est pas forcément des athlètes, c'est pas forcément des jeunes. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est des héros dans lesquels on peut mettre un mec plus âgé, un mec plus rond, un mec plus... Ça aussi, c'est quand même sacrément même innovant, même par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que le personnage évolue, on va dire, dans sa forme civile. Bon, après, dès lors que
ils ont tous la même.
Dès lors que c'est l'acteur transformé, de suite on fait entrer en scène les cascadeurs et tout ça, les cascadeurs du Onyo Kenyukai ou du Japan Action Club, ça dépend les séries, mais c'est vrai qu'il y a une petite transformation morphologique dès lors que le Henshin s'opère. Mais c'est vrai que il y a des morphotypes un petit peu différents, même si on joue toujours sur ce côté le personnage un peu grand, élancé, mâchoire un peu carré. Qui est mu par son sens de la justice et de l'intégrité absolue. Oui, c'est un personnage en plus qui est, quand on le voit, quand on voit les petites fiches, en plus, on se dit, mais on a envie de le dessiner, ce personnage.
Carrément,
on a envie
carrément.
On a envie de s'en saisir. Et c'est vrai que quand on voit les films, c'est presque la même dynamique que les films Dragon Ball ou Dragon Ball Z. C'est-à-dire, c'est des films qui sont produits au moment où les séries sont diffusées. Mais sur Kamen Rider, généralement...
Hors chronologie ?
Alors justement, selon les films, il y a des films qui s'inscrivent dans la chronologie de la série, des fois qui font le pont entre deux épisodes, et d'autres non, qui sont juste des aventures annexes. Ouais. Ouais.
Un peu comme Doctor Who aussi,
oui, bien sûr,
qui l'a fait en Angleterre. Alors on a vu passer un liner avec pas mal de super-héros qu'on connaît, des métal-héros, cette nouvelle génération. Quand on voit la transformation de Kamen Rider, on a un peu tout ce qu'on avait vu. On a le fameux saut en l'air qui peut rappeler Sankukai. Mmh. Et puis, on a cette armure de combat, ce Henshin qui se transforme, qui nous rappelle les métal-héros. Et puisqu'on est en plein Japan Expo, il y a les héros d'une série qui sont présents à Japan Expo, la série Spillvan. Mmh. Comment on passe de Kamen Rider à ces métal-héros dans les années 80? Est-ce qu'il y a un lien finalement entre les deux? On va en parler dans un instant. Mais on se replonge. Tiens, le Henshin façon Spillvan, les trois versions, regardez à quoi ça ressemble. Et ils sont invités de la Japan Expo tout le week-end. Question ! Spillvan, Kesso, ça c'est la transformation, devenue cristallisation en version française sur TF1. Moi, c'est une des séries que je préfère avec peut-être Xor ou Scheider, mais on parlait tout à l'heure de ces cascadeurs qui sont souvent sous le costume quand ils sont transformés. Il y a un lien entre Kamen Rider et cette génération de héros des années 80, notamment Spillvan ?
Alors oui, effectivement. Bon, en fait, il faut savoir que généralement, sur les séries de Tokusatsu, on s'est adressé justement à des écoles ou à des clubs pour réaliser les cascades. Sur Kamen Rider, historiquement, c'est le Hono Kenyukai, donc, qui était une école surtout spécialisée dans le kendo et dans les combats d'épée. Mais progressivement, il y a aussi une autre école qui s'est invitée, c'est le Japan Action Club, donc, qui est une structure créée par l'acteur Shinichi Chiba, donc Sonny Chiba, rappelez-vous.
On l'a vu dans Kill Bill.
Voilà, à Torianzo.
C'est le grand maître de Kill Bill.
Voilà, à Torianzo, qui a commencé lui aussi à amener. Donc, en fait, c'était une école qui consistait à former des acteurs, des actrices au jeu d'acteur, mais aussi à monter à cheval, à pratiquer les arts martiaux, mais aussi à faire des cascades, etc.
Donc Kenji Oba.
Et donc Kenji Oba, qui lui, donc, était cascadeur sur les séries Kamen Rider, mais aussi sur les Super Sentai. Et de fil en aiguille, ça va amener aussi d'autres comédiens, comme le fameux Hiroyuki Sanada, qui aujourd'hui...
Et dans
Shogun, multi-récompensé pour Shogun. Et il vient du Japan Action Club. Et pour rappel, c'était lui le héros de Sankukai, de Tukaram no Meseji, Ginga Taisen. Donc du coup... Japan Action Club s'est invité dans plein de productions martiales de la Toei et puis plein d'œuvres tokusatsu. Et puis bon, bah le Metal Hero qui va remplacer un peu Kamen Rider au début des années 80, bah est partiellement dû au Japan Action Club puisque Kenji Oba, bah lui c'est un des élèves du Japan Action Club. Et de même que tous les acteurs qu'on verra ensuite dans les séries de Metal Hero, notamment Monsieur Hiroshi Watari qui jouera donc Sharivan et donc plus tard Spillvan, il vient du Japan Action Club, Naomi Morinaga également, et puis aussi Makoto Sumikawa, donc qui l'accompagne dans Spillvan, elle vient aussi du Japan Action Club, donc, et ça continue encore un peu aujourd'hui. Il y a des héritiers du Japan Action Club qui est devenu le Japan Action Enterprises, qui forment toujours des acteurs et des, et des cascadeurs, ouais. Ça
avec,
continue.
Avec des séries qui se nourrissent de la culture internationale.
Ouais, oui, bien sûr.
On se souvient, on avait reçu Olivier Fallais qui nous avait raconté comment Dragon Ball Z s'était empreint de ce qui se passait aux États-Unis. Quand on voit Spielvan, honnêtement, on est obligé de penser notamment à Vador et à Star Wars. Enfin, et c'est quasiment à la même époque. Enfin, donc c'est hyper intéressant comment ils sont allés piocher ici et là des choses.
Ouais, alors c'est marrant parce que en fait
ou pas du tout. Ou est-ce que c'est nous qui nous projetons?
Non, c'est complètement ça, puisqu'il y a un personnage, je crois que c'est le méchant de Jaspion qui ressemble à Dark Vador dans mon souvenir. Mais de toute façon, quand ils ont produit comment ça s'appelle, Sankukai, l'idée c'était de faire
surfer sur Star Wars.
Quand on voit par exemple donc Ixor Gavan, son arme de prédilection c'est l'épée laser, donc le laser blado en japonais, mais parce que c'était un souhait de Kenji Oba d'avoir un sabre laser pour la série, et de fil en aiguille le sabre laser, donc l'épée laser, c'est devenu l'arme principale des Metal Heroes. Et ce qui est très intéressant dans Spielvan, c'est qu'il a la double épée laser qui sera repris sur le personnage de Darth Maul.
Donc ouais.
les inspirations sont assez...
Et puis c'est vrai que dans Spielvan, le héros a perdu son père et sa sœur quand il était petit, et il se retrouve avec un méchant robotique dans l'Empire Warlord, je crois, qui est en français.
Warlord, tout à fait.
Et il découvrira plus tard que c'est son père qui s'est transformé en robot, quoi. Donc,
de toute façon, les révélations, je suis ton père, je suis ton frère, je suis ta sœur, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les séries Tokusatsu de l'époque. Hein. C'est toute cette notion de parentalité qui est vraiment très, très importante. Mais c'est bien parce que ça ajoute quelque chose d'un petit peu différent. Je me souviens que Spielvan aussi, c'est une série un peu plus neigeuse aussi que les autres séries de Metal Hero, mais qui est une des plus belles séries parce que les designs sont superbes, les costumes sont magnifiques, il y a quelque chose de très mecha.
La musique est incroyable.
La musique est super, il y a quelque chose de très mecha, hein, c'est une des séries les plus mecha, même quand on voit Bioman du côté Sentai, on rentre vraiment dans l'air mecha. Et en plus de ça, c'est une série qui montre aussi l'évolution des personnages féminins, parce que comme on a vu dans l'extrait, là, il est accompagné par deux héroïnes.
Mais d'habitude, l'héroïne, elle est faire valoir, elle reste dans le vaisseau, là, elle l'accompagne, et sa sœur va les rejoindre en cours de combat.
Exactement, et ça je pense toujours que c'est une résultante de Bioman, qui était la première série de Super Sentai à mettre deux héroïnes dans l'équipe, en fait.
Dans l'équipe de 5,
tout,
ouais.
Ça, tout à fait.
Pour terminer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Kamen Rider a eu plus de mal à percer en France et que les Metal Heroes, eux, ont trouvé leur public? Est-ce que c'est juste une affaire de calendrier, ou est-ce qu'il y a quelque chose de peut-être plus international dans les Metal Heroes que dans Kamen Rider?
Je pense que déjà, en France, on a réussi à capter les gens en termes de... Enfin, Otokusatsu, parce que Sankukai... Parce que Sankukai, c'était une histoire spatiale, donc du coup, on pouvait connecter ça à Star Wars, mais aussi à Albator, donc à Galactica, donc à toutes les épopées spatiales de l'époque. Sur Bioman, c'était aussi un peu... Bah, Ixor, c'était aussi... On était encore dans quelque chose de spatial, on était dans un héros qui vient d'une autre galaxie, et puis le côté chromé, argenté, ça parlait. Le côté héros solitaire avec son sabre laser, ça parle. Et puis sur Bioman, ça a pris parce qu'on avait vraiment des héros colorés, des héros très très complémentaires, on avait deux héroïnes, donc du coup ça c'était une autre entrée vers le tokusatsu.
Puis la récupération par Saban,
ouais,
avec les Power Rangers qui a duré pendant presque 30 ans, quoi.
Et c'est vrai que la percée du tokusatsu en France, elle se fait à une époque où il n'y a pas de Kamen Rider, donc du coup le personnage n'a pas pu s'imposer directement. Alors visiblement, la rumeur dit, alors, je ne sais plus si c'est fondé ou pas, on vous dira dans les commentaires, que AB Productions avait acheté Kamen Rider Black, la série de 88, mais qu'ils l'ont doublé, mais que c'est resté dans les tiroirs. Alors c'est possible, hein, parce qu'on voit Dorothée dans un des épisodes de Kamen Rider.
Ah, elle a fait aussi Kamen Rider.
Ouais.
Parce que je sais qu'elle a fait Jiraiya, ouais, qu'elle en a fait un troisième. Mais...
Elle a fait Jiraiya, elle a fait donc Liveman.
Liveman, exactement.
Et donc elle a fait un épisode de Kamen Rider Black, on la voit très très bien dedans. Mais la série n'a jamais été diffusée en France. Et du coup, de fil en aiguille, puisqu'il n'y a plus de Kamen Rider ensuite dans les années 90, à part au cinéma, c'est jamais arrivé chez nous. Après, Saban a acheté la dernière série de l'époque qui avait été diffusée à la télévision, donc Kamen Rider Black RX, pour faire Mask Rider. Et puis ensuite, quand la série a vraiment repris au début des années 2000, il n'y avait plus le Club Dorothée, il n'y avait plus tout ça. Donc du coup, on a commencé à redécouvrir le tokusatsu autrement.
avec les fansubs, avec Internet, etc. Donc on était entré dans une autre ère.
Et je crois qu'il y a eu aussi, pour finir, il y a eu aussi, je crois, c'était VR Troopers. Ouais, c'était pas une adaptation aussi, récupérer les Metal Heroes, enfin, il me semble bien américain, si, c'est ça. Complètement. Avec Spilvan, Metal Dare.
Et Shider dans la saison, et Shider, dans la saison 2. Et c'est à cette époque-là où moi j'ai commencé à me dire, mais il y a un problème, c'est quoi cette série américaine dans laquelle on a Metal Dare et Spilvan. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas des nouvelles séries produites aux États-Unis, mais que c'était des séries qui récupéraient.
Comme pour les Power Rangers.
Exactement, que c'était des séries qui récupéraient tout le matériau japonais, mais qui se contentaient seulement de retourner des scènes avec des acteurs au civil.
En gros, pour que les gens comprennent, c'est exactement Power Rangers. C'est-à-dire que les scènes d'action, quand ils sont en costume, sont issues des séries japonaises.
Exactement.
Mais on retourne toutes les scènes où ils sont en civil pour donner un cachet américain ou pas. Mais voilà, c'est ça qui est.
Ce qui est une pratique très, très ancienne, puisque le premier Godzilla, je rappelle, est sorti aux États-Unis en 1956 avec de nouvelles scènes avec l'acteur américain. Raymond Burr, de même que j'évoquais tout à l'heure Super Rider, qui était un film taïwanais de Kamen Rider. Bah en fait, ils se sont tout simplement contentés de reprendre les séquences à effets spéciaux des films, de ces films qui sont disponibles dans le coffret, et d'y tourner de nouvelles scènes avec des acteurs taïwanais. Voilà, simplement. C'est une pratique comme
rien ne se perd, tout se transforme.
Exactement. Tout se henshin.
Tout se henshin. En attendant, redécouvrez l'univers de Kamen Rider, parce que voilà, au même titre que c'est toujours hyper intéressant de se replonger dans des univers qu'on ne connaît pas via le livre magnifique que tu as sorti sur les kaiju, là, se replonger dans ce pan de la culture japonaise, c'est jamais une perte de temps. Et quand en plus c'est fait comme c'est fait avec Roboto, vraiment à souligner le travail remarquable qui a été fait avec tout le coffret qui est là avec nous. Ça s'appelle Kamen Rider, les 8 films de la première période sont donc ici entre 71 et 87, et on espère évidemment que la suite évidemment sera commercialisée, on surveillera ça dans les prochains mois, mais voilà, c'est une belle découverte. Kamen Rider à l'honneur de ce premier numéro, merci beaucoup Fabien,
merci à toi
d'avoir été avec nous.
Merci à toi surtout.
C'est toujours un plaisir de t'avoir, merci d'avoir été avec nous. La Loi des Séries, saison 11, épisode 1, c'est terminé, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis et à très vite.